Caroline David est directrice des arts visuels à Lille 3000 et commissaire d'exposition. Elle a été responsable du projet du pavillon Lille Europe qui, Nanjing Road, au cœur de Shanghai et loin du site officiel de l'exposition universelle, joue jusqu'au 15 juillet la carte de la valorisation économique et culturelle de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors Caroline David, un très court rappel peut-être de la carte d'identité de Lille 3000 pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui n'habitent pas Lille.
Alors Lille 3000, c'est très lié à la capitale européenne de la culture, Lille 2004. Et donc Lille 3000 a été la structure qui a été mise en place par la ville, par les collectivités locales, pour succéder à cette capitale européenne de la culture. C'est une structure qui organise des événements culturels et artistiques.
Alors pourquoi Lille 3000 à Shanghai ?
Pourquoi l'île 3000 à Shanghai? C'était une décision très, je dirais, très récente, très rapide, fin 2009, avec un petit peu comme fonctionne l'île 3000, avec cette envie, à un moment donné, de faire des liens avec des endroits où il va se passer quelque chose. Et Shanghai était le grand rendez-vous, je dirais, dans le monde avec l'Expo universelle, et que il semblait intéressant, à un moment donné, d'être près de cette expo universelle. Et donc, le projet s'est monté très rapidement. C'est un des petits derniers, je dirais, au niveau du planning des pavillons notamment français, puisqu'il y a le pavillon français dans l'expo universelle, et il y a donc 4 pavillons de région qui sont dans l'enceinte de l'expo universelle, et un 5e, celui de l'île Europe, qui, lui, se trouve au cœur de Shanghai.
Ah oui, les autres régions, je pensais qu'elles étaient aussi à l'extérieur.
Non, elles sont intégrées.
Donc il n'y a que Lille, finalement, qui est complètement off.
Voilà, tout à fait.
Qui joue la carte de l'originalité. Alors, comment a été décidé le programme de ce pavillon, donc
le programme, il a d'abord été, je dirais, de rechercher un lieu. Avant peut-être de trouver le contenu. Et le lieu, quand il a été trouvé, on a eu beaucoup de chance, il a été trouvé avec des complicités à Shanghai et notamment du consulat, nous avons trouvé ce lieu extraordinaire qui est ce temple rouge, Hongmiao, temple rouge qui est donc quasiment sur la Nanjing Road, en plein cœur de Shanghai, dans un des derniers Lilong de Shanghai. Et ce temple, qui est un temple qui est resté complètement dans son architecture, donc de briques, de bois, et donc qui sert de temps à autre comme lieu d'exposition, eh bien, nous avons pu donc l'avoir pendant presque 4 mois. Et donc, en fonction de ce lieu, nous avons fait un programme donc confié à l'île 3000, pour montrer, je dirais, le dynamisme d'une métropole, d'une euro-métropole aussi, et à travers la culture, parce que je pense que c'est quelque chose que l'on sait bien faire dans cette région, dans cette métropole, une culture contemporaine notamment, et puis aussi, puisque toute exposition universelle est sous un angle culturel, certes, mais aussi un angle avant tout économique. Et donc, nous avons associé, donc avec bien sûr les complicités de la Chambre de commerce, de l'île métropole, du conseil régional, les entreprises qui bénéficient d'un endroit, d'une salle pour organiser des événements, organiser des rendez-vous, des rendez-vous d'affaires. Mais je dirais dans une enceinte complètement culturelle. Et donc on rentre dans un lieu qui déjà est, je dirais, extraordinaire. Et puis on rentre dans... Sophie de Mérac parlait de l'insaisissable tout à l'heure en parlant un petit peu du taoïsme, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont là et qui vont jouer sur un petit peu cet insaisissable, ce côté quelquefois parfois un peu surnaturel qu'on peut trouver dans des œuvres d'art ou dans des créations. Alors il y a le parfumeur Francis Kurdjian qui accueille le visiteur avec des bulles parfumées, des bulles de savon parfumées à la violette. Il a créé une fragrance pour l'île 3000. On va retrouver d'ailleurs au pavillon français ces bulles de savon qui accueillent le visiteur. C'est quelque chose de très poétique et en même temps de très ludique, qui amuse les enfants, qui amuse le visiteur. Mais on reste sur cette notion aussi de création artistique. Voilà, donc il y a des choses qui vont comme ça se créer une promenade dans ce temple. Et nous avons associé deux expositions que peut-être, enfin, les Lillois connaissent sans doute. L'une qui a été un grand succès à Saint-Sauveur l'année dernière, qui s'appelait Les Nouveaux Monstres. Donc nous avons pris quelques œuvres des Nouveaux Monstres, très interactives, très ludiques, qui marchent très très bien. Quand vous arrivez par exemple devant un mur blanc et que vous avez votre silhouette qui vient s'imprimer sur ce mur blanc, et que lorsque vous bougez les bras ou légèrement la tête, eh bien, il y a les oiseaux qui s'échappent ou les cheveux qui poussent, etc. C'est très amusant et ça plaît, que ce soit à Lille ou à Shanghai, ça plaît énormément. Donc des moments comme ça de joie, un petit peu aussi d'interrogation, avec Skénocosme qui avait été aussi à Saint-Sauveur, ces plantes qui, lorsque vous les effleurez, dégagent une musique, mais une musique que vous créez avec le mouvement de votre main et de votre corps. Voilà. Et puis une autre exposition, donc, qui est peut-être sous un angle un peu plus scientifique, un peu plus artistique, mais aussi technologique, c'est Futuro Textile. C'était une façon aussi de faire un lien avec Shanghai qui est une grande ville textile, et de montrer le dynamisme d'une région, parce qu'on a trop parlé peut-être de ce Nord-Pas-de-Calais, de cette métropole de la Belgique aussi, de zones sinistrées, du textile qui était terminé, et alors qu'il y a des entreprises, et il y en a beaucoup, qui ont joué la carte de la reconversion sur, je dirais, la veille technologique, sur l'innovation dans les textiles, et qui occupe une place importante dans le marché du textile en Europe et dans le monde. Donc à travers quelquefois donc la mode, mais aussi des textiles dans le secteur de la santé, du sport, il y a donc des choses assez incroyables qui étonnent beaucoup et qui sont donc montrées dans cette promenade, dans ce temple Umiao.
Alors, est-ce qu'on sait d'ores et déjà s'il y a des contrats qui ont été signés entre les entreprises de la région et des entreprises chinoises ?
Il y a des choses qui sont en bonne voie. Bon, je ne connais pas tout ne se dit pas, puis on est en plein, je dirais...
Oui, c'est pas fini.
Ça n'est pas fini, ça commence presque. Mais par exemple, il y a des contacts extrêmement intéressants d'une grande marque de bière que je ne nommerai pas, mais qui a un nom bien du Nord, qui est en train de vendre et de faire des affaires, en effet, avec le marché chinois. Voilà, il y a Mère quand même qui est venue, ce que j'oubliais de dire, c'est qu'il y a...
Il fait des gaufres.
Il y a, bien sûr, il y avait un petit restaurant dans cette toute petite salle de thé et de restaurant. Et Mère, donc, a refait le décor à l'identique d'une petite partie, donc, de Mère rue Escarmoise à Lille. C'est magnifique. Et il y a, donc, un restaurant et un salon de thé. Et pour la première fois, Mère, donc, avec la complicité du Sofitel, réalise ces gaufres, ces fameuses gaufres, et intéresse beaucoup aussi, le secteur gastronomique de Shanghai.
Ça, je pense que c'est ça dont vont se rappeler les Chinois. Les gaufres de chez Mère, ça va faire un tabac. Combien a coûté le pavillon Lille-Europe ?
Le pavillon, le budget complet, c'est-à-dire avec l'exploitation, avec les transports, etc., on n'est pas tout à fait à 400 000 euros.
Donc c'est un budget qu'on va dire de communication pour la région ?
C'est un budget minime de communication pour, je dirais, toutes les collectivités de la région et de la métropole.
En tout cas, c'est une réussite à en juger par tous ceux qui y sont allés. Par contre, ce n'est pas a priori l'idée sur le pavillon français. J'ai entendu des avis assez partagés. Vous êtes allé à l'exposition universelle, vous n'avez pas eu le temps de faire tout le tour, mais vous avez vu le pavillon français. Alors juste votre avis personnel.
Alors j'en ai fait très peu. Hein. Malheureusement, il faut beaucoup de temps pour faire une expo universelle. J'ai fait en effet 3 ou 4 pavillons. J'ai visité le pavillon français. Je l'ai bien vu. J'ai vu dans la presse aussi que il était un peu attaqué. Moi, je fais partie des gens qui le trouvent, en tout cas au niveau architectural, très bien. Ce n'est pas en effet comme peut-être le pavillon britannique, le grand geste extrêmement spectaculaire. Il a quelque chose en même temps de extrêmement élégant. Il a quelque chose d'extrêmement serein. L'architecture de Jacques Ferrier a été aussi très fonctionnelle. Et je pense que pour une expo universelle, quand il y a un public énorme, c'est énorme le nombre de personnes qui passent par jour dans un pavillon. Et le pavillon français est un des pavillons qui a quand même un grand succès. Il fait partie des 4 ou 5 pavillons les plus visités. L'architecture est extrêmement fonctionnelle. Le public peut circuler rapidement. Il n'y a pas d'embouteillage. Et donc, ça, c'est une première chose. Cette résille de béton, moi, personnellement, je la trouve bien. Elle est très agréable. L'intérieur, en jouant sur un petit peu des références, bon, bien sûr, au végétal, on est dans Better City, Better Life, donc avec beaucoup de la partie environnementale qui joue son rôle. Et puis, donc, une très belle terrasse belvédère qui est la plus belle de l'Expo universelle. Après, c'est peut-être sur le contenu que la presse française, je crois que c'est que la presse française qui s'est un petit peu attaquée.
C'est un peu normal, on regarde chez nous.
Sur le contenu, mais tous les pavillons de l'Expo universelle, en tout cas ceux que j'ai visités, font la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont là où le public chinois, qui est quand même à 95%, qui les attend. Et la France, elle est attendue sur quoi ? Elle est attendue sur la gastronomie, sur la Chine, sur la mode, sur le cinéma, sur des entre guillemets peut-être un peu clichés. Mais en même temps, si on ne va pas sur ces présentations-là, il y a des déçus. Donc,
certes, c'était un choix.
Voilà,
ça n'a pas été le choix de l'avant-garde en tout cas.
Peut-être pas assez.
Bon, bah, on verra bien le bilan. En tout cas, Caroline David, merci. Je vous signale que du 8 au 11 de juillet prochain, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Jean-Claude Casadesus, sera, à l'invitation de l'exposition universelle, l'ambassadeur de la région à Shanghai, au programme Millau, Ravel, Beethoven et Dvorak. Et puis le pavillon Lille-Europe, donc, c'est Nanjing Road, quasiment, et c'est jusqu'au 15 juillet.